Les médias francophones publics vous accompagnent comme chaque semaine avec l'accent des autres. Bienvenue dans ce rendez-vous avec la Radio-Télévision Suisse, avec Radio-Canada, avec également RFI, France Inter et la RTBF. Et on va commencer aujourd'hui, Nicolas Sûr, avec les suites de cette polémique autour d'un joueur de football sénégalais, Idrissa Ganagay.
Oui, l'international sénégalais du PSG s'est fait porter pâle samedi dernier lors d'un match où les joueurs portaient un maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel lors d'une journée spéciale contre l'homophobie.
Cette information également en provenance de Moscou, la Russie ordonne la fermeture du bureau de Radio-Canada dans la capitale russe, Benoît Audet.
Après 44 ans de présence dans la capitale russe, Radio-Canada doit plier bagage à la suite de cette décision du ministère des Affaires étrangères.
Il sera aussi question de ce vaste coup de filet dans les réseaux de l'ultra-droite en France. 11 personnes interpellées et placées en garde à vue. Toutes gravitaient autour d'un groupuscule appelé « Vengeance patriote », Karine Bécard.
Oui, est-ce qu'il s'apprêtait à commettre un attentat xénophobe? C'est ce que tente de vérifier le parquet antiterroriste. En tout cas, c'est une menace prise très au sérieux en France parce qu'elle est en train de monter en puissance, notamment depuis ces 5 dernières années.
La Suisse a beau être connue pour son libéralisme, elle s'est aussi régulée. Les votations de dimanche dernier l'ont démontré, Pierre-Anne Chauffat.
C'est particulièrement vrai pour les contraintes désormais imposées à Netflix, Disney+, et autres plateformes de streaming. Elles devront injecter une partie de leurs gains dans la production locale et proposer davantage de séries européennes.
Enfin, nous nous quitterons cette semaine en Belgique avec une importante cyberattaque. La victime, c'est un réseau d'hôpitaux et de maisons de repos, le groupe Vivalia dans le sud du pays, Jacques Crémers.
Oui, avec des répercussions importantes sur les services, puisque la plupart des prestations ont été annulées. Une cyberattaque revendiquée contre le paiement d'une rançon, sous peine de divulgation des données.
Voilà donc pour les titres de cette semaine. C'est une absence qui a beaucoup fait parler d'elle cette semaine en France, au Sénégal, mais pas seulement. L'absence du milieu de terrain du PSG, Idrissa Ganagay, samedi dernier à l'occasion d'une opération de la Ligue de football professionnel contre l'homophobie. Nicolas, il n'est pas monté sur le terrain.
Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. C'était le slogan de la 37e journée du championnat de France de Ligue 1. Les joueurs portaient un maillot floqué aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole des fiertés LGBT. Idrissa Ganagay, lui, déclare forfait, il ne s'en est pas expliqué. Mais pour les collectifs de lutte contre l'homophobie, son refus de s'associer à cette cause ne fait aucun doute. Il avait déjà brillé par son absence l'an dernier lors d'une première édition de cette opération.
Oui, et depuis, la polémique bat son plein avec des critiques en France. Par contre, au Sénégal, on soutient le joueur.
Oui, le comité d'éthique de la Fédération française de football, qui n'a toutefois pas de pouvoir disciplinaire, lui demande des explications. La ministre française des Sports parle d'un choix regrettable. Mais à Dakar, la tonalité est toute différente. L'international sénégalais a reçu de nombreux soutiens, au premier rang desquels celui du président Macky Sall, pour qui les convictions religieuses de Ganagay doivent être respectées. Au Sénégal, l'homosexualité reste un sujet hautement sensible. La loi réprime d'un emprisonnement d'un à cinq ans les actes dits contre nature avec un individu du même sexe.
Ils ont couvert la perestroïka, la chute de l'Empire soviétique, la guerre en Tchétchénie, la montée en force de Vladimir Poutine. Mais les journalistes de Radio-Canada sont désormais persona non grata en Russie. Moscou a donc annoncé la fermeture du bureau de Radio-Canada ainsi que la révocation des visas et des accréditations de ces journalistes. Benoît, la Russie ne s'en cache pas, il s'agit de mesures de représailles.
Oui, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agit d'une riposte aux actions du Canada depuis le début de la guerre en Ukraine. Moscou accuse le Canada d'avoir adopté une politique résolument anti-russe et que Radio-Canada et son pendant anglophone CBC étaient devenus, et je cite, un mégaphone de propagande anti-russe. On évoque aussi la décision d'Ottawa de bannir la chaîne d'information Russia Today sur le territoire canadien.
Et les réactions canadiennes ne se sont pas fait attendre suite à cette décision.
Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que cette décision était inacceptable. Radio-Canada aussi a réagi. La directrice générale de l'information de Radio-Canada, Luce Julien, parle d'un jour noir. On l'écoute.
Ça fait 44 ans que Radio-Canada et CBC informent les Canadiens sur ce pays qui est extrêmement important. Non seulement on aborde les enjeux politiques, mais évidemment on aborde la société russe. Et J'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, c'est un jour triste, un jour noir pour le journalisme international, c'est certain. Et pour le public canadien, bien sûr, qui nous suit.
Radio-Canada a déjà annoncé son intention d'ouvrir un autre bureau dans la région, mais on ne sait pas encore comment on arrivera à couvrir l'actualité russe sans une présence sur place.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Ce vaste coup de filet à présent en France, 11 membres du groupuscule de l'ultra-droite Vengeance Patriote ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste. Le chef présumé de cette organisation avait déjà été interpellé en décembre dernier et mis en examen, inculpé donc pour provocation à un acte terroriste et pour apologie publique d'actes de terrorisme. Cette fois, ce sont donc 11 de ces lieutenants qui ont été interpellés, principalement des hommes et une femme qui ne cachent ni leurs propos racistes sur les réseaux sociaux, ni leur passion pour le fascisme, Emmanuel Leclerc.
À partir du moment où on était allé arrêter leur leader qui détenait plusieurs armes à la fin de l'année dernière, confie une source proche de l'enquête, on se doutait cette fois que l'on ne trouverait pas un arsenal en perquisition, même pas d'armes blanches, de chasseurs pour des adeptes du survivalisme. L'objectif des enquêteurs, c'est surtout de savoir si derrière Lucas Sandarowski et sa pseudo-librairie sur le web commercialisant des ouvrages nazis royalistes, suprémacistes et antisémites, peut se cacher une association de malfaiteurs terroristes. La section de recherche de la gendarmerie de Paris et la DGSI voulaient donc récupérer des téléphones, des ordinateurs. Il s'agit maintenant, lors des gardes à vue simultanées, de déterminer si derrière le site internet de Vengeance Patriote, proposant des stages de sport de combat MMA, de maniement du couteau et de port de l'armure, il y avait d'autres objectifs d'action violente. Les 11 lieutenants présumés de Sandarowski échangeaient sur la messagerie cryptée Riot. Ils ont été interpellés en Bretagne, en région parisienne ou encore dans le Vaucluse.
Emmanuel Leclerc pour France Inter. Les suites à présent des récentes votations en Suisse. Le peuple suisse a suivi ses autorités dimanche dernier. Dons d'organes, contributions à Frontex et aide au cinéma. Pierre-Han, il a approuvé clairement les trois objets qui lui étaient soumis.
Ces dimanches de votation où le Conseil fédéral peut ainsi se réjouir sur toute la ligne ne sont pas si fréquents. Un grand soulagement déjà par rapport à la participation suisse à Frontex, l'agence européenne de garde frontières. Eh bien, après de 3-1, le corps électoral a préféré rester dans l'organisation pour contribuer à la réforme de l'intérieur et pour ne pas compliquer davantage la tâche du gouvernement dans ses délicates relations avec l'Union européenne.
Alors vous nous aviez aussi parlé du don d'organes. La Suisse passe donc au consentement présumé, comme en France et comme en Belgique.
Un signal important contre la pénurie de dons d'organes, mais un pas prudent qui respectera toujours la position de la famille, a relevé un enthousiasme moins marqué dans la partie germanophone du pays, 50 à 55% de oui contre 70 à 80% en Suisse romande, une influence sans doute du voisin allemand qui défend toujours le consentement explicite du donneur de son vivant, une différence culturelle qui nécessitera des campagnes d'information plus soutenues en Suisse alémanique.
Et puis il était enfin question de soutien à la culture, Pierre-Han, et au cinéma en l'occurrence.
Oui, une loi sur l'aide au cinéma rebaptisée l'ex-Netflix. Les plateformes de streaming devront investir 4% de leur chiffre d'affaires réalisé en Suisse dans des séries ou des longs-métrages helvétiques. Elles seront par ailleurs contraintes de proposer 30% de contenu européen. L'idée de contraindre, de réguler ces géants du net qui prennent toujours plus de poids dans nos vies a sans doute beaucoup pesé dans le vote des Suisses, plus peut-être que le désir d'injecter une vingtaine de millions supplémentaires dans le cinéma.
Enfin, ce n'est pas du cinéma. On va terminer avec cette vaste cyberattaque en Belgique. Elle a visé les établissements du réseau hospitalier Vivalia dans le sud du pays. Une attaque informatique qui a bloqué les serveurs et donc les ordinateurs. Résultat, Jacques, des services perturbés et des interventions médicales annulées.
Oui, cette cyberattaque, elle s'est produite le week-end dernier. La plupart des opérations non urgentes ont été supprimées et reportées sur les différents sites du groupe à Marche, Arlon, Virton ou encore Libramont, des localités situées en province de Luxembourg. L'essentiel des consultations ont été annulées, de même que de nombreux examens ou l'activité des centres de prélèvement. L'ordinateur étant devenu omniprésent, il a donc fallu se débrouiller avec un bon vieux stylo et une feuille de papier.
Je suis en train de préparer la sortie d'un patient qui est transféré. Donc on a dû réécrire la lettre médicale à la main. J'ai dû réécrire tous les traitements à la main qu'on sortait avant des ordinateurs. Et donc là, ça fait 30 minutes que je fais la lettre de sortie du patient. Et j'ai 28 patients dans mon service.
Grâce aux informaticiens internes et externes, l'activité de l'hôpital se rétablit peu à peu, mais on est encore loin d'un retour à la normale. Les points d'entrée de la cyberattaque ont été identifiés par les experts et en cette fin de semaine, la reconstruction informatique est en route. Des PC devraient être réinstallés ce week-end dans des services clés pour une reprise progressive des activités. Au niveau médical, les consultations nécessitant un suivi sont assurées, comme les petites opérations urgentes, mais pas d'anesthésie générale, par exemple, pas de radiologie, donc pas d'image médicale. C'est toujours un fonctionnement en mode dégradé.
Oui, et cette cyberattaque a été revendiquée en milieu de semaine par un groupe qui se fait appeler Logbit. C'est une organisation criminelle, Jacques, qui menace de diffuser les données volées sur les serveurs.
Et les cybercriminels assurent avoir en leur possession des milliers de données personnelles de patients, mais aussi des données des employés et d'autres informations. Ils demandent le paiement d'une rançon et menacent de rendre ces informations publiques si le paiement n'est pas effectué dans les 8 jours. Le dossier est traité par les autorités judiciaires. L'hôpital se refuse à tout commentaire sur cette demande de rançon. L'organisation Santé à la Fédération sectorielle hospitalière se dit, elle, inquiète de la vulnérabilité des hôpitaux en raison de leur situation financière qu'elle qualifie de catastrophique.
Oui, et en Suisse aussi, des communes, des hôpitaux, des universités ont connu ce genre de mésaventure, Pierron.
À tel point que la Confédération a décidé cette semaine de créer un office fédéral de la cybersécurité. Non pas qu'on parte de zéro, mais l'actuel centre national n'a pas les coudées assez franches. L'office aura des compétences étendues et davantage de moyens. Il faut dire que le gouvernement subit de nombreuses critiques pour le retard numérique de notre pays. Les experts saluent donc cette étape, mais attendent de voir les moyens réels de ce nouvel office.
Merci Pierron Chauffat pour la Radio-Télévision Suisse et merci à vous d'avoir été au rendez-vous de l'Action des Autres comme chaque semaine. L'actualité vue par les médias francophones publics. Merci à tous et bien sûr, si vous le souhaitez, à la semaine prochaine.